l'heure philo. L'heure philo sur France Inter jusqu'à 21h. Karen Dehaie est à la réalisation. Chantal Le Montagnier a tout organisé. Djoubaka a choisi les disques. Ne manquait que Loïc Frapsos qui est aux manettes. 55 minutes pour évoquer Jean-Paul Sartre. Je crains bien que ce ne soit trop peu.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Camarades, je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel. Et je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
C'était Jean-Paul Sartre aux usines Renault de Billancourt à l'automne 1970. Bonsoir Alyosha Valde-Lasovski.
Bonsoir Patricia.
Vous êtes universitaire, vous êtes essayiste, vous avez notamment publié, parce qu'il y a beaucoup de livres, L'enfance d'un chef de Sartre, ainsi que Jean-Paul Sartre, une introduction, paru désormais chez Pocket. Alors le Sartre de mai 68 ou juste après, c'est celui qui est allé donc au-devant des ouvriers, c'est le Sartre le plus grand public, c'est celui qui souhaitait abolir la distance entre le peuple et les élites. Il y a aussi le Sartre des romans et des pièces de théâtre. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça? Est-ce qu'il y a une logique?
Oui, c'est une très bonne question, un bon point de départ pour partir du Sartre le plus connu, celui qui était dans les manifestations, celui qui a signé le manifeste des 121 contre la guerre en Algérie, qui était effectivement engagé sur tous les fronts politiques, que ce soit en France ou même à l'international, évidemment à l'étranger. Oui, il y a des points de rapprochement parce que Sartre a toujours refusé par exemple l'idéalisme en philosophie, comme il évitait l'idéologie en politique, ou même l'idéalité du moi ou du je. Et donc l'idée de Sartre, c'est effectivement d'être engagé par rapport à des situations précises. Mmh. Et Sartre a toujours aussi eu une grande méfiance vis-à-vis des partis politiques traditionnels, vis-à-vis des institutions classiques.
On le verra avec le Parti communiste notamment. Mais si on dit que c'est un expérimentateur qui a voulu changer le monde, ça vous va?
C'est exactement ça. Ça fait partie tout à fait de sa philosophie qui refuse effectivement de définir l'existence. On sait que sa phrase importante, c'est l'existence précède l'essence. Mmh. C'est-à-dire qu'il refuse l'idée qu'il y a une nature humaine définitive, qu'il y a une substance, qu'il y a une sorte de d'idéal, et que pour lui effectivement la liberté c'est la prise de conscience de la nature humaine comme contingence, c'est-à-dire qui n'a pas de but, qui n'a pas de raison, et c'est seulement la conscience de la situation qui fait agir et qui mobilise par rapport à des situations précises.
Et c'est un homme immergé dans son temps.
Exactement, et c'est pour ça qu'il est toujours en avant, qu'il est toujours en volonté d'aller plus loin, que la responsabilité de l'intellectuel, comme il le dit ici, c'est pas du tout de donner des leçons. C'est pas du tout justement d'être à l'extérieur de la situation et de contempler le monde en donnant les bons points, disons ce qui va pas. Non, au contraire, il est engagé au sens où justement, être engagé, c'est être engagé au nom de tous, pour tous. C'est un peu un pour tous et tous pour un, d'une certaine façon, parce que c'est ça, être homme. C'est ne pas avoir une nature humaine définie. Il y a mille façons d'être homme, mais chaque fois qu'on agit, on agit en fonction d'une responsabilité, d'un choix et d'une liberté.
Mais c'est important de rappeler que Sartre n'était pas un donneur de leçons, parce que c'est pas toujours l'image qu'il donne. Et d'ailleurs, en 1964, quand il a refusé le prix Nobel, il a déclaré « tout ce que je peux faire, c'est protester ». C'est-à-dire qu'il a finalement réduit son action en disant simplement « bon ben voilà, je suis lucide, mais voilà, ça s'arrête là ». Et pourtant, et ça vous le montrez très bien dans votre livre, il est à la croisée d'énormément de chemins intellectuels. Il y a des générations d'intellectuels qui sont ses héritières.
Oui, qui le suivent, qui l'accompagnent. Effectivement, il a participé un petit peu à tous les bouleversements, parce que l'idée de Sartre, c'est effectivement de ne jamais se reposer sur ses acquis et d'être toujours attentif au nouveau, à la nouveauté, à ce qui arrive, à ce qui se passe dans le monde. Donc, Sartre a sans doute, évidemment, on le sait, il y a eu des débats, des erreurs politiques, mais c'était pas trop son problème, parce qu'il disait, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Et finalement, les erreurs font partie de cette contingence, de cette liberté qu'on a de faire des choix. De toute façon, ne pas choisir, c'est aussi un choix. Et donc, il faut s'engager, il faut prendre des décisions et il faut participer au bouleversement du monde. Et effectivement, il a toujours refusé les honneurs aussi. C'est-à-dire qu'il a refusé une chaire au Collège de France, il a refusé la Légion d'honneur, il a refusé, comme vous l'avez dit, le prix Nobel de littérature. Bon, à la fois pour pas devenir une sorte d'institution et de toujours rester concerné par les événements, il considérait aussi que le prix Nobel récompensait plutôt souvent les écrivains occidentaux que les écrivains du monde, et il voulait aussi manifester ici cette solidarité.
Par une bande de gens, je parle là de ceux qui, des jurés du prix Nobel, qui n'y connaissaient rien. Il a eu des paroles très très dures, hein, sur le prix Nobel.
Oui, non, il mâchait pas ses mots, mais c'était là aussi une manière aussi de faire réagir et d'être en situation. Bon, c'était quelqu'un qui participait en fait à énormément de choses, et il avait aussi le sens évidemment de la formule, de l'exclamation, de faire réagir. Et donc, c'est vrai que pour lui, il fallait continuer, avancer et ne pas rester sur ses acquis. Donc cette remise en question permanente, c'est pour ça qu'il y a une chose qu'il aimait beaucoup, c'est la jeunesse par exemple. Il était très sensible aussi au mouvement de la jeunesse. Mai 68, par exemple, quand on l'a un peu rappelé, alors que lui était, il y a eu quand même d'autres mouvements après l'existentialisme qui sont arrivés, le structuralisme, le post-structuralisme. Et donc Sartre, on pourrait croire qu'il était un peu en retrait, mais en fait non, il était toujours là, parce qu'il s'est engagé aussi pour manifester, pour soutenir les prisonniers avec Foucault, ou aussi pour les Boat People sur le pavillon de l'Élysée avec André Glucksmann. Et donc il y avait cette conscience en avant. Pourquoi ? Parce que la conscience n'est pas fermée, elle n'est pas fixée. Vous savez, c'est la grande thèse effectivement de Sartre, de dire que on ne peut pas être, par exemple le garçon de café qui joue à être un garçon de café peut s'identifier à une sorte de rôle, de posture, et une posture peut très vite devenir une imposture.
Albert Camus, c'était en 1957.
À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier, et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence.
Et voilà qui est dit. Sartre, Camus, le choc des titans.
Ah oui, alors ça c'est une histoire très très importante, très forte depuis leur... Alors ils se sont, avant même de se rencontrer en 1943, à la première des Mouches, chacun avait lu l'autre. L'un avait lu L'étranger, l'autre avait lu La nausée, et donc il y avait une forme déjà d'admiration et de complicité intellectuelle et littéraire entre deux romanciers très importants qui avaient finalement des points communs tout de suite. C'est-à-dire ce rapport au monde, pour l'un c'est l'absurde, Camus, pour l'autre c'est l'angoisse.
Sachant que Camus n'a jamais été véritablement reconnu comme un philosophe, contrairement à Sartre.
Oui,
On a plus salué l'écrivain que le philosophe.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est d'ailleurs une injustice.
Mais oui, parce qu'en fait, par exemple, dans l'œuvre de Camus, il y a trois grandes étapes. Il y a l'absurde, la révolte, la réconciliation. Et à chaque fois, ça se développe dans son œuvre, dans le roman, dans le théâtre et dans l'essai philosophique. Mmh. Donc il est là aussi dans une sorte de dispositif d'écriture qui est extrêmement ouvert et extrêmement fécond. Oui, alors là, on a eu un texte en 57, là où justement aussi, le moment où Camus a lui reçu le prix Nobel de littérature. Et alors, en 43, évidemment, ils se sont rencontrés, il y a une grande fraternité entre Sartre et Camus, parce qu'au fond, ils venaient, chacun n'appartenait pas à une école. Ils n'étaient pas dans un rapport d'école et d'identité. Donc, ils avaient cette traversée commune de l'existentialisme. Et bon, ils avaient des passions très fortes, par exemple le théâtre. Pour Camus, les trois grandes passions, je pense, du collectif, c'était le journalisme, le théâtre et le sport. Et donc, il y avait cet investissement. Et Sartre a aussi beaucoup aimé tous les investissements collectifs comme le journalisme. Et d'ailleurs, c'est Camus qui a confié à Sartre des articles de presse, à la fois pour la Libération de Paris, et le premier grand voyage que Sartre a fait aux États-Unis, c'était à la fois pour la revue Combat que dirigeait Camus, et oui, pour le Figaro.
Mais c'était aussi une époque où on aimait le débat d'idées. À la limite, plus on était proche de quelqu'un, plus on l'aimait bien. Ça a été le cas entre Sartre et Aron, et plus on se frittait avec lui.
Mais oui. Et puis surtout que là, on est dans le cas de Camus et Sartre, où on est évidemment du côté, là, cette fois-ci, de la gauche, mais il faut trouver une gauche qui ne soit pas communiste, une gauche qui ne soit pas socialiste, réinventer la gauche. C'était au fond leur objectif. Avec l'idée que Camus est resté quand même libertaire, beaucoup plus en retrait, et Sartre avait passé une sorte d'accord, de pacte avec le Parti communiste entre 52 et 56. Et le conflit finalement, parce qu'il y a eu quand même une grande tension en 52 entre Camus et Sartre, juste d'un mot, c'est qu'en fait, d'un côté, vous aviez Camus qui disait qu'il fallait absolument éviter l'excès, éviter d'être trop radical. Et donc, il avait un rapport à l'histoire qui était de distance. Alors que Sartre, pas du tout, lui disait, il faut au contraire être embarqué dans l'histoire, il faut la pousser jusqu'au bout pour voir ses effets. Et donc, au moment de la sortie de L'homme révolté de Camus, qui n'est pas l'homme révolutionnaire, et donc la différence entre révolte et révolution est au cœur du conflit entre Sartre et Camus, qui ne se sont plus jamais parlé jusqu'à la mort tragique de Camus en 1960, et un très beau texte d'hommage, trois jours après, que Sartre a écrit.
Que dalle tout sur France Inter, c'est Bertrand Belin.
D'abrubus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de freins, de tout sexe. Seigneur de château renversé, cher à Dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Tout, tout, que dalle. Tout, 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 que dalle.
Paul Sartre est ce soir au cœur de L'Heure Philo en compagnie d'Alyosha Wallasowski, auteur notamment de Jean-Paul Sartre, une introduction.
La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre.
Alors, l'homme est libre, c'est le concept clé de Jean-Paul Sartre, la liberté.
Oui, absolument, mais on peut préciser tout de suite que l'homme est condamné à être libre, c'est ce que dit effectivement aussi Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que la liberté est une responsabilité, la liberté est le fait de choisir, de s'engager, de peser, disons, les points précis d'une situation, donc c'est pas une liberté absolue ou une liberté en général, c'est une liberté qui fait que à chaque instant, on rejoue cette liberté. En fait, c'est une manière de se reposer positionné dans le monde, parce que, en fait, la liberté, elle se construit sur un manque au départ. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce manque devienne un projet. Parce que la gratuité de la contingence, comme on le lit dans la nausée, pourrait effectivement conduire totalement à l'anti-humanisme. C'est-à-dire, finalement, l'idée que Sartre, dans la nausée, à travers les yeux de Roquentin, voit en fait un monde bourgeois, on va dire, c'est-à-dire en tout cas où tout est en forme simplement de valeurs, de présuppositions, un état des choses qui est totalement statique, totalement artificiel. Et la liberté, c'est revenir au fondamental, c'est-à-dire c'est le pour soi, hein, c'est l'expérience du néant, de l'angoisse, de la gratuité, sauf que du coup, il faut que cette liberté devienne un projet.
Alors sur la liberté, justement, là aussi, c'était en 1948 à la Sorbonne, au moment de la création de l'UNESCO.
On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine. Est-ce qu'il trahit, s'il parle des nazis, de l'Espagne, de la résistance, des pays opprimés, de la question juive, du prolétariat, de la guerre qui vient, est-ce qu'il est simplement le gardien des valeurs éternelles? Il faut répondre que non. On n'est pas d'abord le gardien des valeurs éternelles. Car la liberté est concrète.
La liberté face aux événements, la liberté face au monde, et la liberté qui est une épreuve. On se met en danger, ça peut même devenir une tragédie.
Oui, exactement, et ça l'est d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est une tragédie qu'il faut en tout cas essayer de transformer ou d'habiter. On le voit aussi dans les pièces de théâtre de Sartre qui posent toujours ces grandes questions effectivement existentielles. Est-ce qu'il faut trahir? Est-ce qu'il faut s'engager jusqu'à quel point?
Dans L'être et le néant aussi qu'il a écrit assez tôt, c'était en 1943.
Exactement, hein, je crois, 1943.
C'est ça. Voilà, dont vous dites d'ailleurs, je crois que c'est un des textes les plus importants du XXe siècle.
Ah oui, c'est vraiment un texte qui est fondamental parce que toute la philosophie de Sartre passe par là, et puis c'est un texte qui en même temps montre comment une écriture se construit. Avec des exemples littéraires, des exemples pris de la vie quotidienne. Donc c'est une sorte de philosophie en situation, une philosophie en acte. Mais on voit dans l'extrait que vous avez passé, on peut penser par exemple à ça, c'est un événement très important, c'est 1945, la création des temps modernes. Et donc voilà, c'est une... Fondée avec Simone de Beauvoir, avec Michel Léris, avec Merleau-Ponty, avec Camus, avec Aron. Et donc on était aussi dans l'idée que toutes les idées, toutes les sensibilités politiques pouvaient aussi essayer de tenir. Il y a eu aussi, peu de temps après, l'expérience du RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire, une sorte de parti que Sartre voulait fonder de manière directe avec les prolétaires, des intellectuels, des artistes, mais ça n'a pas vraiment tenu. Donc en tout cas, cette idée, effectivement, voilà, des temps modernes, on rentre dans une époque, Sartre a fondé ça d'une certaine façon après la guerre, c'est-à-dire cette idée que voilà, maintenant on est engagé dans tous les combats, dans toutes les situations, ça nous concerne. Et donc les temps modernes voulaient être un peu un laboratoire justement de regard sur le monde, regard multiple, mais qui accompagnait les bouleversements les plus importants.
Et la liberté, ça correspond toujours à une rupture, déjà avec soi, avec l'idéologie, bien sûr, avec soi. La première rupture, au fond, c'est peut-être celle avec sa famille. Il a été, et là il faut vraiment recommander aux auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui ne l'ont pas déjà fait et je les envie, de lire Les Mots, où Sartre s'étudie comme il pourrait tout aussi bien étudier Baudelaire ou Genet. Enfin, c'est politique aussi, à la fois c'est biographique, mais c'est un regard sur soi avec une distance qui est absolument, il est clairvoyant vis-à-vis de lui-même.
Mais oui, il est absolument clairvoyant, et vous avez raison, la liberté c'est d'abord contre soi-même qu'on l'exerce. Il faut dire que Sartre n'aimait pas son enfance, et considérait
Il n'aimait pas son enfance parce qu'il a perdu son... Il était d'une famille bourgeoise, un père officier, mais qui est mort très, très jeune.
Effectivement, hein, il était orphelin de père très tôt, et donc sa mère s'est remariée. Donc il y a eu effectivement, il a dit, c'est les premières années de sa vie, c'est les plus mauvaises de sa vie.
Mais c'était le temps où il s'appelait Poulou.
Voilà, absolument.
Et mais il a été élevé par un grand-père,
oui,
qui lui s'est bien occupé
de lui. La famille Schwatzer, effectivement. Mmh. Et on retrouve effectivement ce portrait. Mais d'autres écrivains aussi luttent contre cette idée de l'enfance. Parce qu'en fait, pour lui, l'enfance, c'est vraiment l'idée où chacun joue un rôle. Et où les parents vous imposent le rôle. Hein. On dit l'enfance, c'est le monstre que les parents créent avec leurs regrets. Cette formule, quand même, très, très cruelle, d'une certaine façon. Et donc c'est le familialisme, cette idée qu'en fait dans l'enfance il y a une sorte d'imposture, chacun joue un rôle et l'enfant joue, enfin en tout cas doit correspondre à l'image que les parents veulent qu'il ait. Et donc on est effectivement dans une sorte d'artifice. Et la construction de soi, c'est s'arracher justement aux artifices que la société nous impose, mais que la société, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit les rapports sociaux... Voilà, dans l'enfer c'est les autres, il y a aussi cette idée-là, même si l'idée, effectivement, c'est que c'est par le regard de l'autre que la liberté, justement, va pouvoir s'exercer et se penser.
Oui, alors là, il faut ouvrir une parenthèse qui est ô combien importante, parce que l'enfer c'est les autres, ça prête vraiment au contresens les plus absolus. C'est pas du tout, il a pas du tout dit que l'autre était un horrible personnage pour soi-même.
Oui, non, pas
c'est
du tout.
Qu'il faut vivre sous le, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'il faut se confronter au regard de l'autre pour pouvoir, justement, être soi-même et s'en libérer. Et donc, en tout cas, c'est pas, par exemple, on pourrait pourrait croire que l'enfer c'est les autres, c'est l'apologie de la solitude complète, oui, et que oui. Le mieux c'est de vivre, voilà, vivre dans une île et oublier tout le reste. Comme on voit la vie de Sartre et que vous avez bien rappelé, on voit que c'est effectivement exactement le contraire. Mais donc il faut passer par le regard de l'autre, et puis il y a aussi toute une transformation chez Sartre de ce regard avec autrui, parce que avant la Seconde Guerre mondiale est vraiment une coupure radicale importante dans la vie et dans la pensée de Sartre. Avant, il est effectivement plutôt individualiste, libertaire. Il regarde le Front populaire depuis le balcon, ça n'intéresse pas. Il va en 1933-34 en Allemagne, où il voit la montée du nazisme. Il ne la voit pas, il ne s'y intéresse pas.
Il est à l'Institut français de Berlin pendant quelques années. Sur les conseils d'Aron, qui y était aussi, et qui, lui, a été tout à fait perméable à ce qui se passait autour de lui, et pas Sartre.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait presque une sorte de retard politique, et c'est vrai que c'est l'expérience du Stalag, c'est-à-dire l'expérience de la guerre, où Sartre a été effectivement captif. Il a même fait une pièce de théâtre avec ses amis prisonniers, Baryona, et donc il a pris conscience en fait de l'importance de la solidarité et de l'importance aussi du sens du collectif.
Alors sur Sartre et la guerre, précisément, le philosophe que vous connaissez, je pense, François Nudelman.
C'est un débat un peu polémique avec, d'un côté ceux qui disent oui, bon, Sartre, finalement, il est le philosophe engagé, mais pendant l'occupation, il n'a rien fait. Et puis ceux qui disent, mais non, pas du tout, ça a été un héros et on peut lire ses textes, ça se voit bien qu'il est résistant. Bon, moi, je cherche pas à prendre parti de manière morale là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Sartre, effectivement, de manière extrêmement volontariste, change de style, change de registre, même de d'écriture, avec à la Libération, les temps modernes, mais aussi qu'est-ce que la littérature. Donc, d'une certaine manière, il travaille quelque chose qui est en lui, qui est effectivement cette pas forcément cette complaisance, parce qu'il n'a pas été complaisant à l'égard de la collaboration. Mais une culpabilité de se sentir léger. Au fond, Sartre est quelqu'un qui aime la légèreté, mais qui l'a chaussé des semelles de plomb à la Libération, précisément après cette période où, sans doute, n'a-t-il pas pu faire ce qu'il aurait voulu, c'est-à-dire véritablement être un résistant, et qu'il s'est obligé à être lourd, parce que, comme il l'a dit d'ailleurs dans ses carnets, dans les carnets de la Drôle de Guerre, c'est qu'il écrivait pendant qu'il était prisonnier au Stalag, il a dit, voilà, au fond, il faut être fait d'argile, mais je le suis de vent.
Voilà, ni saint, ni criminel, ni résistant, ni collabo.
Oui, mais on pourrait trouver aussi effectivement des arguments qui vont quand même dans le sens d'une tentative de Sartre de participer à sa façon à la résistance. Effectivement, bon, il était météorologue dans l'armée, donc c'était pas déjà un combattant. Après, il était au Stalag. Ensuite, quand il est revenu, il a essayé d'aller voir André Gide, par exemple, dans le sud de la France, pour essayer de monter un réseau de résistance. Ça n'a pas marché parce que Gide est parti ensuite en Afrique du Nord. Il a essayé d'aller voir Malraux avec des amis. Il a essayé de monter sous la botte un journal de résistance, mais c'était vraiment avec des étudiants. Ça marchait pas beaucoup. Après, il y a eu le journal Combat avec Camus. Mais bon, c'était peut-être à contre-temps. En tout cas, pour moi, la réponse, c'est que la première nouvelle engagée de Sartre, ça date de 1939. Et c'est L'enfance d'un chef, justement, qui est une nouvelle qui raconte comment un gamin, un jeune, qui s'appelle Lucien Fleurier, qui a une sorte d'angoisse et qui sait pas du tout ce qu'il va faire de sa vie, un chef parce que son père voudrait que lui, il devienne chef d'usine, et finalement, il va se laisser porter là par le collectif dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire l'idéologie dominante, et il va devenir camelot du roi, et avec les autres camelots du roi, ils vont aller tabasser un juif dans une scène qui est terrible et décrite vraiment par Sartre avec une certaine violence, et il va terminer cette nouvelle en montrant cette anti-héros qui va se croire, ça y est, arrivé à quelque chose, enfin reconnu comme il est, parce que les autres l'ont considéré comme un chef, et c'est donc une dénonciation du fascisme.
Mmh. Et quand il a dit mais il était âgé quand il a dit ça, enfin il avait 70 ans, il a dit que l'expérience de la guerre avait divisé sa vie en deux, et il ajoute, c'est là que je suis passé de l'individualisme et de l'individu pur d'avant la guerre au social, au socialisme.
Oui, c'est-à-dire que c'est finalement l'évolution de l'existentialisme. Alors, on sait que l'existentialisme a eu aussi une sorte de rôle libérateur à la sortie de la guerre, parce que c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est une sorte aussi de retour à la vie et qui a accompagné aussi une sorte de joie de vivre. Ça, c'est aussi une image, malgré tout, qui est présente.
Après, il allait danser, Sartre ?
Oui, il participait, effectivement. Non, mais c'était quelqu'un d'assez gai, d'assez joyeux, hein. D'ailleurs, j'ai une anecdote parce qu'il racontait à des amis qu'il allait créer une revue après la guerre. Et en fait, ses amis ont cru que c'était une revue de musical. Mais en fait, non, il parlait des temps modernes. Mais c'était pas, finalement,
c'est
éloigné.
Pas tout à fait pareil.
C'est pas pareil, mais c'est pas non plus éloigné de quelqu'un qui aime la vie, qui est joyeux et qui a toujours essayé.
Il aimait les bonnes blagues, il était même assez potache.
Exactement, tout à fait potache, avec Boris Vian, avec tous ses amis. Il avait quand même de l'humour, même si après, effectivement, dans les conflits intellectuels, il savait être radical, dur et ne pas faire de l'amitié, finalement, un prétexte pour garder des liens bien si les conditions politiques obligeaient à rompre. Mais donc oui, en fait, le sens du collectif est vraiment apparu avec la guerre, avec la conscience du fait que l'écrivain, justement, a une parole qui résonne avec les événements du monde et que la littérature, c'est participer, justement, dans les faits, dans la société, dans les actes. Et il a toujours gardé, justement, cet équilibre complexe. Par exemple, quand il écrit le Flaubert le matin, il est dans son bureau, il écrit, l'après-midi, il va manifester, il va s'engager, il va aller avec les Mao, ou à une autre période, il va aller faire des visites internationales avec Simone de Beauvoir. Donc, il a toujours ce souci, finalement, de participer à ce qui se passe dans le monde.
Un mot précisément sur ce livre qui concerne Flaubert, L'idiot de la famille.
Oui. Bah oui, alors c'est une sorte de projet incroyable de dire que la société, le monde, l'histoire est contenue dans le parcours d'un homme et devenir écrivain, finalement, c'est à la fois s'arracher à son milieu, le milieu de Flaubert qui était celui de médecin et donc qui était aussi celui avec une sorte de vision très précise du monde. Et donc l'écrivain, le geste d'écrire, c'est s'arracher à son milieu, à sa condition et essayer de construire une vie, mais qui est à une sorte d'universel singulier. C'est une très belle vision du monde, c'est-à-dire que pour Sartre, l'écrivain, c'est celui qui à la fois est spécifique, unique, comme il écrit aussi des psychanalyses ou des biographies existentielles sur des textes sur Ponge, Mallarmé et Jean Genet, son contemporain immédiat. Et le Flaubert, l'idiot de la famille, c'est vraiment de dire que celui qui était considéré comme totalement à part et ne pas correspondre au schéma familial allait s'arracher et participer finalement à ce que le monde politique lui permettait d'écrire et de faire que l'écriture était une sorte d'avancée sur le monde.
Son vieux copain, Raymond Aron.
Ce qui a fait la violence de la rupture, c'est que Sartre s'est laissé entraîner au compagnonnage avec le Parti communiste par un mécanisme intellectuel que je comprends. Il déteste tellement la société bourgeoise et il n'a pas vu que la société soviétique comportait toutes les tares de la société bourgeoise, plus un certain nombre de tares supplémentaires. Alors, à partir d'une révolte fondamentale contre la société bourgeoise, il a glissé au compagnonnage avec le Parti communiste, et il l'a fait à l'époque du stalinisme, ce que je trouvais absurde, j'allais dire monstrueux, mais non, n'employons pas de grands mots, disons que c'était déraisonnable.
Déraisonnable, dit Raymond Aron. C'est très compliqué, hein, les rapports de Jean-Paul Sartre et du Parti communiste.
Oui, le Parti communiste et le PCF, le Parti communiste français, 52-56, c'est l'ancrage en 1952-1956, c'est les 4 années de compagnonnage, compagnon de route, comme il dit au Parti communiste.
Sartre, compagnon de route, avant, il y avait été hostile. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Avant, il y avait été hostile, et justement, lui se sentait beaucoup plus proche d'une sorte de troisième voie entre la gauche socialiste et la gauche communiste. Donc il se méfiait, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup des idéologies, beaucoup des systèmes de pensée. Et donc forcément, le communisme en est un, est une idéologie. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Sartre n'a jamais pris de carte dans aucun parti politique. Mmh. Simplement, il agit et il réagit. Et il considère qu'il faut passer des pactes, des alliances, des sortes de contrats provisoires pour faire bouger les lignes et pour essayer d'accélérer l'histoire dans le sens de l'histoire.
Mais ce qui n'a pas empêché de multiplier les prises de position les prises de position publiques dans sa vie. Il a été engagé contre la guerre d'Indochine, et puis il y a eu Cuba, il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, le conflit israélo-palestinien. On peut dire qu'il était tiers-mondialiste, très anticolonialiste, et en tout cas, il vomissait l'impérialisme occidental.
Bah oui, et surtout, ça c'est le climax, c'est la préface aux damnés de la Terre de Frantz Fanon, qui est effectivement un texte terrible, très très violent, en disant que la violence se justifie quand il faut tirer sur le colon, et donc se battre contre la colonisation, c'est aussi passer par la violence. Mais c'est justement ça que le débat entre Sartre et Camus a permis de mettre en lumière, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la révolte, qui est pour Camus, par exemple Spartacus, c'est-à-dire il faut que ce soit une révolte qui est évidemment illégitime, la révolte de l'esclave, mais essayer de trouver une sorte de mesure, de modération, arriver en tout cas à sortir d'un état et ensuite de ne pas aller trop loin. Donc Camus défendait la pensée de midi, c'est-à-dire une sorte d'équilibre contre les excès, contre la radicalité, alors que Sartre considérait que la radicalité était plus efficace, était nécessaire, était à un moment donné le seul moyen d'agir pour faire vraiment bouger les lignes. Mais il a été très engagé effectivement contre le colonialisme, contre la torture, contre d'autres formes de violence, mais il considérait qu'il fallait effectivement être d'une certaine façon à la hauteur du défi politique qui était posé. Et donc le rapport avec le Parti communiste effectivement est fait de tensions, de ruptures et d'une forme presque de contradiction, dans le sens où voilà, pour Sartre, il fallait en fonction des époques trouver le bon équilibre politique pour pouvoir avancer sur l'échiquier international.
Alors, on a bien compris que la nature de son engagement, c'est l'adhésion à des vérités générales. Est-ce que c'est la morale, au fond, qui a qui a dicté ses choix et de quelle morale s'agirait-il ?
Alors, on pourrait définir sa morale qui, encore une fois, est toujours soumise aux situations et doit toujours effectivement s'adapter au contexte. Donc, c'est pas ni un donneur de leçons, ni une morale toute faite. Mais c'est, je pense, l'idée de responsabilité qui est importante, une éthique responsable, une éthique qui doit faire les choix qui vont forcément vers l'idée de liberté, de libération.
Et de juste, de ce qui est juste.
Et de ce qui est juste, effectivement, quand il dit que sous l'occupation, on n'a jamais été aussi libre sous l'occupation, c'est une formule évidemment paradoxale qui signifie qu'il fallait de toute façon choisir, qu'il n'y avait pas le choix. C'est donc ces situations-là qui obligent à choisir un camp et à ne pas rester, si vous voulez, neutre, à l'écart. Ou voilà. Donc le choix étant nécessaire, la liberté étant conditionnée à la situation qu'on vit, la responsabilité est absolument impérative. Donc l'impératif de l'action, c'est effectivement l'idée d'accompagner les mouvements du monde et de toujours y participer d'une façon ou d'une autre et de choisir effectivement le camp juste. Pour Sartre, c'est toujours choisir le camp des opprimés contre l'impérialisme, le camp des minorités contre le colonialisme, le camp des victimes, parce qu'il a aussi participé à des procès, il a aussi témoigné, il s'est aussi engagé justement pour dénoncer par exemple la torture en Algérie. Donc c'est des moments très très importants dans l'histoire intellectuelle et l'histoire de France et l'histoire politique. Donc Sartre a toujours justifié voilà cette idée que il n'allait pas rester neutre et il allait participer à ces combats. Son appartement a été plastifié plusieurs fois par l'OAS. Effectivement, bon, De Gaulle disait on n'enferme pas Voltaire, hein. Et donc justement Sartre était celui qui était libre.
De Gaulle a dit ça.
Oui, De Gaulle a dit ça au sujet de Sartre. Et donc voilà, Sartre voulait toujours garder cette liberté, et pour le faire justement, il voulait toujours aussi ne jamais être dans une sorte de tour d'ivoire. L'écrivain ne doit pas être enfermé dans une sorte de tour d'ivoire surplombante. Et donc c'est pour ça qu'il accompagnait les mouvements de jeunesse, qu'il accompagnait aussi des jeunes comme André Gorz, qui est fondateur par exemple d'une nouvelle écologie. Donc ça, c'est aussi des sujets très importants dans ce rapport à la nature, au monde, au corps. Et donc le féminisme, très important. On ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire que le féminin, la féminité, le féminisme ne renvoie pas une nature, une essence, une identité femme. Il y a 1000 façons de vivre femme, féminité, féminin. Et ça, je pense que c'est le lien très fort aussi entre, évidemment, la pensée de Simone de Beauvoir, qui là s'appuie aussi sur ses échanges avec Sartre.
Qu'est-ce qui a fait, Alyosha Wald-Lazowski, que vous vous êtes un jour intéressé à cet intellectuel qui se mêlait de ce qui ne le regardait pas ?
Mais je trouve que Sartre est justement une sorte de laboratoire expérimental extrêmement riche aussi pour nous, pour notre temps présent, pour penser aussi tous ces mouvements singuliers qui émergent, qui essaient de se penser, de se construire et ne pas s'isoler dans une sorte de doctrine, dans un dogme. Par exemple, les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les mouvements postcoloniaux, repenser la sexualité, repenser le rapport à l'autre, repenser aussi justement un monde fait de liberté individuelle et qui parfois s'entrechoque entre elles. Donc, je trouve finalement que Sartre est notre contemporain aujourd'hui et que c'est intéressant de penser contre soi-même. C'est une belle leçon sartrienne, je pense, et c'est une leçon qui peut nous aider aussi aujourd'hui, parce que il y a quand même beaucoup de menaces de dogmatisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces aussi d'être un peu figé. Si t'as pas choisi ton camp, bah, ça veut dire que t'es pas avec nous. Et donc, il y a, voilà, les choses aujourd'hui sont tellement parfois figées, bloquées dans des formes de binarisme, d'opposition stérile. Voilà, il faut retrouver un peu de fluidité, de mouvement, d'intelligence de la situation. Et Sartre peut nous aider à penser tout ça.
Et vous vous souvenez, vous, du premier livre de lui que vous avez lu ?
Je pense que j'ai lu La Nausée, qui est effectivement pour moi un livre vraiment bouleversant, parce que c'est à la fois une façon d'écrire, très moderne, très nouvelle, avec une sorte de vision sur le tas. Il n'y a pas de psychologie surplombante, il n'y a pas de narration qui nous guide. On est vraiment dans des sortes d'état des choses, d'état du monde. Et donc c'est un livre qui est très moderne, je trouve, La Nausée, qui avait été d'ailleurs très bien choisi et salué par André Gide, qui disait, tiens, ce Jean-Paul, il faudrait s'y intéresser.
Et en même temps, le Jean-Paul, il disait, par rapport à La Nausée, qu'est-ce que La Nausée à côté d'un enfant qui meurt de faim. Là aussi.
Oui,
il
replace absolument les choses et il sait aussi très bien voilà que le rôle de l'écrivain peut rester aussi parfois très modeste, très insuffisant, mais qu'il est là pour accompagner les choses et qu'il ne va pas les changer radicalement d'un seul coup.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
spell on you, 'cause you're mine. La 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 la, you better stop the things you do. Because you're
Madame de Beauvoir, Monsieur Sartre, est-ce que vous acceptez d'être appelé un ou une moraliste ?
Moi, personnellement, j'aimerais pas beaucoup ça, parce que le mot de moraliste représente quelque chose d'assez formel et d'un peu transcendant aux événements historiques. Et je serais, de ce point de vue-là, je serais un peu gênée. Et puis je ne vois pas en quoi j'aurais autorité pour légiférer. Je ne sais pas qu'est-ce que Sartre pense, lui.
Je me présente dans un monde politique où certaines forces sont en jeu, où des faits tragiques ont lieu et que nous essayons d'envisager à partir des lois internationales existantes. Mais nous ne sommes pas pour autant la conscience universelle. Nous sommes n'importe qui, des citoyens qui essayons de faire le point.
Des citoyens engagés dans une certaine lutte,
dans laquelle,
d'une certaine manière, tout en étant aussi impartiaux que possible par rapport à la vérité des faits, nous prenons parti sur un plan, disons, pratique.
Alyosha Vlassovsky, on imagine les tête-à-tête entre Sartre et Beauvoir. Elle l'appelait toujours Sartre ?
Elle l'appelait Sartre, oui. Sartre.
Ça devait voler haut quand même, non ?
Ah bah oui, c'est effectivement à la fois un couple extrêmement proche dans la vie quotidienne et en même temps intellectuellement extrêmement fécond, bouillonnant. Et ils ont été ensemble un peu partout dans le monde.
Ils se sont connus alors qu'ils faisaient leurs études de philo.
Absolument.
Lui est reçu premier à l'agrégation. Et qui vient derrière ?
Juste et bah c'est elle juste après. Elle. Et donc ils se sont rencontrés effectivement. Ils ont fait ce pacte amoureux d'avoir une sorte de voilà d'amour nécessaire par rapport à des amours contingents.
Et les amours contingents,
absolument.
C'est ça.
Absolument. Et donc c'est une vie assez unique d'un couple intellectuel et d'un couple aussi très très soudé dans les combats politiques, parce qu'ils étaient effectivement, elle et lui étaient toujours ensemble, justement lorsqu'ils allaient rencontrer à Cuba par exemple, ils sont ensemble lorsqu'ils vont, après chacun a été aussi à un moment donné différemment aux États-Unis, mais voilà, donc dans les grands voyages et dans les grandes causes ils sont effectivement très très soudés. À l'enterrement de Sartre, effectivement, Simone de Beauvoir est là,
elle était cassée, hein.
On s'en souvient,
ceux qui ont vu les images,
voilà, oui. Les images, on peut les voir, effectivement on sent une sorte de drame terrible, d'émotion évidemment très très fort.
Mais qu'est-ce qu'elle lui a apporté et en quoi est-ce qu'elle a pu modifier sa pensée ? Quelle a été son influence, au fond, sur lui ?
Ben, ils ont eu une sorte d'influence mutuelle. Réciproque, parce que oui, et dans les lettres au Castor, on voit très bien comment Sartre est transparent avec une seule personne. Je pense vraiment il y a une sorte de transparence, d'exigence même de tout dire. C'est avec elle, avec Simone de Beauvoir.
C'est l'alter ego absolu.
Exactement. Donc on parle de tout. On parle de ce qu'on ressent lorsqu'il est à la guerre, lorsqu'il fait les délettes pendant la guerre, lorsqu'il est météorologue, lorsque chacun est aussi dans un lycée dans les années 30. Donc ils se disent vraiment tout. Ils se disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et elle l'a beaucoup aidé pour construire aussi son œuvre. Et je pense réciproquement pour par exemple pour La Nausée, elle lui donnait effectivement des conseils sur certaines scènes.
Elle était sa première lectrice.
Oui, absolument. Et donc c'est vraiment un échange intellectuel quotidien, permanent, jusqu'au bout, sur des sujets très variés. Et je pense que voilà, s'il y a cette proximité, ce pacte, cette alliance à la fois intellectuelle, amicale, amoureux, et qui est vraiment unique dans l'histoire intellectuelle.
Et est-ce que Sartre aurait été féministe si elle n'avait pas été là ? Toujours facile. Hein,
c'est toujours facile. En tout cas, c'est sûr que ça n'aurait pas été aussi important, parce que ça, c'est vraiment un des grands combats, évidemment, de Simone de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Ça veut vraiment dire effectivement que la féminité n'est pas, encore une fois, une identité fixe, fermée, et qu'elle correspond à une image, un stéréotype de la femme. Il faut au contraire que l'existentialisme féministe, ça soit de vivre l'existence femme et de devenir ce qu'on souhaite être par rapport aux conditions de départ. Et elle a vraiment lutté, elle, dans son propre parcours, par rapport à la famille dans laquelle elle venait, où pour une femme de son époque, on refusait qu'elle fasse des études, qu'elle soit philosophe, qu'elle ait cette vie aussi justement avec Sartre, où elle n'est pas mariée avec lui. Et donc il y a aussi beaucoup de ruptures de son côté par rapport au milieu d'origine, par rapport à l'image même de la femme. Donc c'est certain que Simone de Beauvoir a apporté énormément de choses à plusieurs générations de féministes. Et encore aujourd'hui, je pense que ces thèses, ces grandes idées et ces magnifiques mémoires, les mémoires de Simone de Beauvoir sont superbes parce que c'est un regard sur le temps, sur l'époque.
Il y a aussi un très beau livre d'elle sur la vieillesse.
Et oui, voilà, sur la vieillesse.
La vieillesse, magnifique.
Absolument, voilà. Donc dans beaucoup de sujets, elle a sa propre philosophie, sa propre pensée, son œuvre littéraire. Et donc elle a sa singularité en tant qu'autrice, que penseur. Et en même temps, elle a toujours été là aussi pour accompagner Sartre et le conseiller.
Quel a été le rôle de l'écriture précisément dans la vie de Sartre ? Parce que l'écriture pour lui c'est la base, c'est aussi la solitude, c'est l'endurance, c'est la volonté, c'est tout ça.
C'est tout ça absolument. Écriture et vie ne font qu'un. Ouais. Chez Sartre. Et l'écriture, c'est l'arrachement à soi, c'est le meilleur moyen justement de ne pas rester fixé dans une idée qu'on pourrait croire éternelle, permanente. Donc c'est une remise en question permanente. L'écriture, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Il y a une phrase de Philippe Solers qui dit que la grande force de Sartre, c'est sa vitesse. Et c'est vrai qu'on sait que Sartre avait des capacités intellectuelles d'écriture absolument phénoménales. C'est vraiment fulgurant. Il y a aussi le fait d'écrire dans les cafés. Alors on sait que c'était aussi parce que pendant la guerre, c'était là où il y avait le poêle et on pouvait aussi être au chaud. Et donc le café, c'était aussi avant d'être un lieu de rencontre, c'était un lieu aussi où on pouvait avoir des conditions un petit peu plus faciles, disons, vu les conditions terribles de l'époque. Et donc l'écriture, c'est quelque chose qui a toujours été, alors à la fin de sa vie, Sartre est presque aveugle, il a des problèmes là aussi justement.
Mais il dicte,
et donc il a continué jusqu'au bout à être dans l'échange, à être dans l'écriture, dans le dialogue. Pour lui, c'était, je pense, le meilleur moyen d'avancer. Et ce qui est incroyable aussi avec Sartre, c'est qu'on peut aussi trouver finalement chacun les textes qu'on a envie de lire. Par exemple, les situations de Sartre. C'est quand même 10 volumes de textes écrits justement dans des circonstances, dans des situations, par rapport à des faits historiques. C'est une mine incroyable pour comprendre l'époque, pour comprendre tout le XXe siècle. Bon, il est né en 1905, mort en 1980, donc c'est vraiment l'homme-siècle qu'il a traversé, comme Simone de Beauvoir aussi, 1908-1986. Donc voilà, ces deux penseurs, lui et elle, qui ont vraiment traversé le siècle et ils ont usé de toutes les modalités d'écriture possibles, que ce soit le théâtre, que ce soit le journalisme, que ce soit la correspondance, donc des lettres, que ce soit du roman, des essais. Et donc ça donne effectivement aussi beaucoup d'approches multiples. Et l'écriture, elle a plusieurs vitesses, plusieurs tempos.
Mais il y a un style Sartre ?
Oui, il y a un style Sartre qu'on peut repérer justement dès La Nausée, par exemple. Quelque chose qui rentre en choc avec le réel et avec une sorte de vision extrêmement directe des choses. Hein. Quelque chose qui, voilà, quand on parle de sexe, on y va. On parle vraiment du sexe tel qu'il est. Donc il y a quelque chose qui est effectivement direct, immédiat, qui renvoie aussi à l'influence de Céline sur Sartre à cette époque. C'est-à-dire qu'il fallait aussi effectivement trouver cette écriture qui aille directement aux choses et qui sache parler à tout le monde. Et donc, cette façon d'écrire et de s'engager dans les situations, dans les thèmes, dans les sujets qu'on aborde, c'est effectivement une manière sartrienne d'écrire, de rentrer en écriture.
Et c'est Roland Barthes qui disait qu'il avait été incendié, littéralement, par l'écriture de Sartre.
Oui, voilà, ça crée quelque chose chez les lecteurs. Michel Tournier, par exemple, a dit « L'être et le néant, c'est une météorite qui nous est arrivée sur nos tables d'étudiants ». Gilles Deleuze considérait aussi pourtant adversaire parce qu'il appartenait à un autre mouvement, qu'il a été mon maître, écrit Gilles Deleuze. Sartre est quand même une référence absolue. C'est lui qui a introduit aussi la phénoménologie par Husserl et Heidegger, qui l'a rendu accessible. C'est lui qui a aussi effectivement voilà inventé une écriture multiple, multiforme. Donc il a voilà et on sait qu'il a influencé énormément de générations bien après les Aron, Camus, Merleau-Ponty. Il y a eu les Barthes, Deleuze, Foucault qui ont été aussi des grands lecteurs, même des adversaires. Parce que Foucault, par exemple, disait qu'il fallait en finir avec l'intellectuel total et passer à l'intellectuel plus spécialiste, c'est-à-dire celui qui travaille sur un sujet particulier qu'il va travailler en approfondissant, alors que Sartre voulait parler de tout. Bourdieu, qui a eu aussi des débats intellectuels avec en lisant Sartre. Donc il y a eu plusieurs générations qui, à la fois, ont voulu se démarquer avec le grand modèle qui était Sartre et en même temps qui sont passés par ses textes. Donc il a marqué beaucoup de monde.
Et là encore, la liberté est omniprésente. Hein. Écriture et liberté ne font qu'un. Écrire, c'est réclamer la liberté pour tous les hommes. C'est ce que
oui.
disait Sartre.
Et voilà, c'est ça. C'est ce geste de dire qu'on porte sur ses épaules le monde et qu'on écrit pour tout le monde. On écrit parce qu'on est un homme en situation, mais au fond que chaque homme est lui-même, chaque être humain, chaque humain est en situation. Et donc qu'il peut y avoir effectivement des résonances, des échos dans cette façon de voir le monde et de partager aussi voilà, ce qu'on voit et ce qu'on écrit.
Et l'imaginaire, il est toujours là. Ce qui, pour un philosophe, n'est peut-être pas si courant. Enfin, j'en sais rien. Peut-être vous allez me contredire.
Non, mais vous avez raison. Effectivement, l'imaginaire, l'imagination, comme le rêve ou comme le fait que Sartre a aussi avait un bestiaire des animaux qui étaient plus que des métaphores, c'est-à-dire des manières de voir le monde. Ça grouillait, il y a des insectes, des crabes, il y a toute une façon de voir le monde qui passe par une sorte de perception des choses, une sorte de conscience dépersonnalisée qui se laisse immergée par ce qu'elle ressent, par ce qu'elle perçoit. Et donc c'est vrai que l'imaginaire, l'imagination, c'est finalement une avancée, une écriture qui est portée justement par des choses. Il a lu Freud, il s'est intéressé beaucoup aux questions de rêve, il a lu des psychologues, il a lu énormément des non-philosophes qui ont nourri justement tout ce rapport au monde qui était de perception immédiate et de sensations diffuses qu'il fallait essayer d'exprimer avec des mots nouveaux sans avoir peur de ne plus être dans un code philosophique précis ou d'être dans le roman. Dans L'être et le néant, il y a des scènes romanesques. Dans La nausée, c'est aussi extrêmement philosophique. Le livre dont on parlait tout à l'heure, L'idiot de la famille, il appelle ça un roman vrai, sur Flaubert. Donc on voit très bien comment les codes, les carcans traditionnels sont explosés.
Il a balancé effectivement entre philosophie et littérature. On peut dire qu'il aimait autant Spinoza que Stendhal ?
Ben oui, c'est une très belle formule qu'il propose et que vous reprenez, vous avez raison, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait des ambitions littéraires extrêmement grandes, mais au même moment, il écrivait, il avait l'ambition effectivement d'écrire des nouvelles, un roman, Le Mur et La Nausée, mais aussi L'Être et le Néant qu'il préparait. Et donc, il a toujours eu, en fait, je pense que chaque exercice d'écriture nourrissait les autres et constituait finalement une sorte d'affrontement dans les codes qui était à ce moment-là déterminé. Mais c'est pareil, par exemple, quand il fait du journalisme, il est toujours philosophe. Quand il va aux États-Unis et qu'il s'intéresse à Hollywood, qu'il s'intéresse aux jeunes dans les campus américains, qu'il s'intéresse au jazz. Lorsqu'il parle du jazz, c'est pas en musicologue spécialiste. Mais il aime Miles Davis, il aime Duke Ellington, il aime le jazz parce que pour lui, c'est le signe de la liberté. C'est une musique qui s'arrache à des codes et qui donne de la place à l'improvisation, au déplacement, à la déambulation. Et donc, il était effectivement en recherche d'espace de pensée où la nouveauté pouvait l'interpeller et lui donner envie d'aller dans cette direction.
Il aime le jazz, il aime la littérature, vous l'avez dit, Faulkner, Melville, Dos Passos, oui. Tout un tas d'écrivains. Et il aimait aussi beaucoup le cinéma.
Oui, voilà, c'est ça. Il était très sensible au cinéma, il appelle ça le poème de la vie moderne. C'est-à-dire qu'il est sensible à la modernité que représente le cinéma. Donc il vit à la fois avec son temps. Il a fait un discours, par exemple, lorsqu'il était professeur au Havre, au moment d'une remise de prix pour le lycée. Il a fait l'éloge vraiment du cinéma comme étant le moyen d'expression le plus en phase avec le temps et avec l'époque. Il avait raison de ce point de vue-là, parce que l'image, on en parlait tout à l'heure de l'imagination, ça veut dire d'abord que l'image est très importante, qu'elle dit beaucoup de choses sur nous, qu'il y a un rythme particulier dans le cinéma et un potentiel, une possibilité, une accélération fulgurante, que c'est aussi l'hommage qu'il rend à Chaplin, à Charlot, qu'il aimait beaucoup, les temps modernes. Il l'a choisi aussi pour ça, parce que ça dénonçait à la fois évidemment le capitalisme, l'impérialisme, mais c'était aussi une façon de voir la vie telle qu'elle était, l'énergie qu'elle pouvait avoir. Le roman américain, il l'a vu avant tout le monde, et il l'a utilisé dans cette simultanéité aussi des consciences dans les chemins de la liberté. Le cinéma, il appréciait ça aussi beaucoup avant tout le monde, la musique de jazz, etc. Donc vous voyez, pour un philosophe, il avait cette écoute, cette sensibilité qui fait que, bon, il se préservait aussi des moments à soi, il était aussi, voilà, il aimait aussi un moment avoir son temps à lui. Il faisait parfois du tourisme, il allait parfois aussi visiter des choses où il n'était pas que dans l'engagement pur et en première ligne. Donc il avait son temps à lui, mais il a aussi un tempo qui permet de pouvoir être finalement à l'aise dans des situations très différentes.
Et puis prendre aussi du temps avec des amis qui n'étaient pas n'importe qui, Giacometti, Calder, Cartier-Bresson.
Oui, c'est vrai, il allait voir ses amis dans les salles d'exposition, et puis même pendant la guerre, à un moment donné, il y a une pièce de théâtre qui est faite, le désir attrapé par la queue, où il y a Camus, Éluard, Lacan, Léris, Sartre, il y a une photo de Brassailles qui représente un peu tous les amis qui étaient réunis. Donc oui, il fréquentait effectivement les intellectuels, les artistes, mais il avait un rapport assez simple, assez direct avec tout le monde, en fait, je pense. Dans tous les témoignages qu'on voit, que ce soit avec des jeunes, avec des étudiants, etc. Bon, on parle de quoi, etc. Donc il avait, parce que par exemple, les jeunes qui étaient dans le comité de rédaction des Temps modernes, à l'époque, les gens comme J.B. Pontalis ou Claude Lanzmann ou d'autres, disent effectivement que Sartre n'était pas là pour qu'on l'écoute lui, il était là pour écouter les autres. Il y avait vraiment un échange, il y a vraiment une participation collective. Donc toutes ces générations successives ont apprécié travailler avec Sartre parce qu'il était effectivement à l'écoute, un homme qui partageait, généreux, et puis effectivement assez joyeux finalement.
Et donc comprenons bien ce que dit Garcin à la fin du huis clos, tous ces regards qui me mangent, pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres. Donc voilà, impossible de vivre sans le regard d'autrui, mais ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'amis.
Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tout dépend de la manière dont on va justement vivre ce regard d'autrui. Parce qu'on peut être choséifié, effectivement, par autrui, qui peut nous imposer, nous placer finalement dans une situation où notre liberté...
Considéré comme un objet. Finalement.
Voilà, on est pétrifié. Notre liberté est pétrifiée. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il parle, par exemple, de l'enfance. Lorsque les parents disent, voilà, il faut correspondre à ça, on habille l'enfant comme une poupée. D'une certaine façon, on le met en scène comme une chose qu'on veut montrer et disposer aux autres. Donc, il y a une tension nécessaire entre soi et autrui, mais il y a le pour autrui qui fait qu'effectivement, il y a aussi l'idée que autrui peut être, on peut partager des choses avec lui, on peut avoir un sens du collectif, du partage, de l'amitié, et donc on ne vit pas sans autrui, ça c'est certain. Il faut construire sa liberté, non pas contre autrui, mais avec autrui.
Alyosha Wałaszewski, il est étudié beaucoup, je parle de Sartre, encore et toujours, notamment, ça vous le dites aussi dans ce livre, Jean-Paul Sartre, une introduction, à la fois au Japon, aux États-Unis aussi.
Oui, c'est-à-dire que Sartre a un écho encore très important dans beaucoup de régions du monde, beaucoup de pays du monde, peut-être parfois davantage qu'en France, où Sartre est un peu enfermé peut-être dans une sorte d'image d'Épinal, dans une sorte de galerie.
Il en sortira peut-être.
Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est aussi le principe des penseurs, des philosophes, et puis finalement, il n'est pas très loin de nous, à notre époque, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire aussi sur notre monde, et sur les idéologies qui nous traversent, et les enjeux, les mouvements naissants qui ont aussi besoin d'avoir un peu de souffle, d'énergie, et je pense que Sartre a été aussi comme ça, quelqu'un qui pouvait accélérer, en tout cas dans sa pensée, dire que les choses étaient possibles, qu'on peut changer les choses, qu'on peut se battre, qu'on peut s'engager. Ça, je pense que pour la jeunesse qui a envie aussi d'être portée, c'est important d'avoir des références comme ça. Ça peut vraiment aider. Moi, je pense les questions sur l'écologie, les questions sur le féminisme, les mouvements sociaux, beaucoup de choses. La question artistique aussi, parce que Sartre avait un rapport aussi au monde qui peut être intéressant à voir en termes d'image, justement, et de représentation. Donc, ça donne beaucoup de possibles, de potentialités. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, Sartre est une référence. En gros, voilà, il y a Sartre et le général de Gaulle qui sont vraiment deux figures majeures. Et moi, qui ai beaucoup d'étudiants internationaux, ils aiment beaucoup venir au cours sur Sartre, sur l'existentialisme, parce qu'ils disent, c'est vrai que nous, on en a entendu parler, nos parents lisaient Sartre, considéraient que ça, c'était très
emblématique,
important.
Hein.
Voilà, des problématiques qui touchaient beaucoup de monde. Et donc, ça crée quand même voilà, encore des cercles sartriens un peu partout dans le monde.
Et aux États-Unis, vous racontez même qu'il y a un laboratoire de pensée expérimentale autour de Sartre.
Oui, ben oui, parce que Sartre, effectivement, a influencé, par exemple, l'antipsychiatrie. Il a influencé effectivement tout ce qui était anti-institutionnel. Et puis, Sartre a un rapport, on va dire, vraiment ambivalent avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fois, il détestait l'impérialisme américain, mais il était sensible à tous les mouvements culturels de la contre-culture américaine qui ont vraiment une importance. Et donc, il a vraiment participé à influencer tout ça.
Et pour finir, par quoi faut-il commencer ? Si on n'a jamais lu Sartre, si on ne le connaît pas bien ou mal.
Moi, je pense qu'il faut prendre des volumes des situations, parce qu'il y a plein de textes d'époque.
Vous y allez fort.
Non, mais il y a des textes
qui sont assez... On peut commencer par les mots.
Oui, les mots. Allez, les mots, c'est très bien. Vous avez raison.
Les
mots, je suis d'accord.
C'est vous qui êtes le spécialiste. Jean-Paul Sartre, une introduction. Et puis, il y a aussi l'enfance. Alors, ça, c'est chez Pocket. L'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre, donc à la bibliothèque Gallimard. Merci à Alyosha Wałaszewski.
Merci
à
vous.
La semaine prochaine, Corinne Pelluchon sera notre invitée et nous parlerons avec elle de la cause animale.